Ami téléspectateurs, vous
avez entendu ça aux infos.
Les
sociaux, ils ne font pas écouter leurs enfants. Allô.
Il est 9h40, merci d'ouvrir bien grand votre antenne à l'instant.
Même.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Vous êtes bien sur France Inter, même si c'est une nouvelle voix d'RMC que je reçois ce matin, mais il est bon d'aller jeter un œil parfois à ce que fait la concurrence. Calqué sur des formats américains, 100% Bachelot a démarré en septembre et comme son nom l'indique, c'est votre émission, c'est vous que les auditeurs appellent et vous leur répondez sur tout, vous donnez votre avis sur tout, car vous avez un avis sur tout. En tout cas, je l'espère, ne nous décevez pas. Bonjour Madame la Ministre.
Oh là là, c'est un titre que je ne revendique plus.
Ah mais je croyais qu'on... C'est Roselyne Bachelot hein, qui est mon invitée. Je croyais qu'on vous appelait ad vitam aeternam,
ah oui,
Madame
ah oui,
la Ministre.
Non, ça c'est vrai, c'est mon
ça,
titre officiel.
Trois fois ministre.
Voilà, si le président de la République m'écrit, il m'écrit à Madame la Ministre.
Mais
je
suis
pas beaucoup, hein.
Peu le président de la République ce matin. Un mot quand même, parce que après avoir parlé devoirs scolaires, pédophilie, égalité des salaires et abattoirs sur RMC, place à l'art lyrique, à vos coups de cœur sur France Musique, tous les vendredis à 8h50. Dans la matinale de Saskia Deville, qui est un plaisir à écouter. D'ailleurs, faut dire que quand on a envie de parler musique classique sur RMC, on a peut-être du mal à trouver un créneau.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Et ben voilà.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
iTélé d'abord. Une rédaction qui signera ce matin le texte de sortie de crise établi avec sa direction. Des salariés à qui la justice a donné hier raison, suspendant le déménagement des bureaux iTélé censés accueillir les équipes de Direct Matin, le quotidien gratuit que possède Vincent Bolloré. Déménagement vécu, souvenez-vous-en, comme une provocation en plein week-end et en pleine grève. Canal+ va interjeter appel de cette décision. L'antenne reprendra d'autant plus doucement que les équipes sont décimées. On vient prendre encore hein, le départ de Mickaël Darmon, ça s'ajoute à une longue liste. La direction se prépare de son côté à lancer CNews, sa nouvelle chaîne d'infos, sur une chaîne d'infos dont elle aura réussi à faire table rase. Ce matin, j'ai joint Adrien Born, il est présentateur de la matinale du week-end d'iTélé et membre du bureau de la Société des journalistes. Je lui ai demandé comment il voyait le champ de bataille après la bataille.
C'est une bataille et c'est un champ de bataille, je ne vais pas vous le cacher, avec beaucoup, beaucoup de tristesse. Et une forme d'abattement, bien sûr, il y a de la fierté, il y a de la dignité dans tout ça, et plus tard on s'en rendra compte, et plus tard on s'en fera sûrement des manteaux bien douillés, mais il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le gâchis.
C'est le gâchis, c'est le gâchis parce que les départs sont très, très nombreux, un tiers de la rédaction qui quitte le navire.
Et c'est pas fini, parce que le mouvement entraîne le mouvement, parce que les départs vont entraîner des départs, parce qu'on a perdu sur deux points fondamentaux dans cette guerre. On a perdu sur le cas Morandini et on a perdu sur la double casquette incarnée par une seule personne qui va être à la tête de la chaîne et à la tête de la rédaction, ce qui laisse peser en tout cas un risque d'interventionnisme de la part de notre actionnaire. Et sur ces deux points-là, on a perdu sur ces deux points-là. Il y a des gens qui estiment que eh ben, c'est impossible, on peut pas travailler comme ça, donc ils partent. Il y en a déjà 40 qui sont partis. Et il y en a d'autres qui vont partir. Donc en fait, cette rédaction, après un tel combat, un combat historique, elle est en train de lentement, lentement mourir. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Est-ce que finalement, Adrien Born, le timing a joué contre vous? Est-ce que finalement, la durée de ce combat a joué contre vous, puisque cette durée finalement a permis à énormément de gens de penser et d'acter leur départ?
Elle a joué contre nous cette durée, et d'ailleurs je pense que on avait face à nous des gens qui jouaient volontairement la montre. Si vous voulez, quand on avait une discussion et qu'il fallait parfois 5 jours pour qu'il y ait une réponse de la part de la direction, 5 jours, c'est arrivé plusieurs fois dans le conflit, c'était 5 jours de grève supplémentaire, 5 jours sans être payé, 5 jours d'épuisement. Et arrivé au 31e jour, on était à bout, épuisé. Enfin, il faut imaginer ce que ça représente de sacrifice, d'épuisement, il n'y a pas d'autre terme, et qu'à un moment, ben oui... On arrive au bout, ok, mais en fait, on a déjà bien pris le temps de réfléchir et en fait, on peut pas.
Voilà. La montre, le calendrier, le timing, c'est celui également des autorités. C'est le CSA qui a mis plus de 15 jours hein, à rendre une décision. Ce sont des ministres qui ont mis 4 semaines à mettre le dossier sur leur table.
C'est ça, aussi. Il faut pas l'oublier. Moi, je crois que chacun devra à un moment établir sa part de responsabilité dans ce qui se passe. On parle là, attention, parce que j'entendais beaucoup dire que c'était une affaire privée. C'est une fréquence publique, iTélé. Elle a été attribuée. C'est une fréquence publique. Est-ce que le gouvernement est allé assez vite? Est-ce que le CSA est allé assez vite? Moi, je les ai alertés directement. Je leur ai dit, vous vous trompez de timing. On ne va pas attendre une hypothétique décision du CSA dans les prochaines semaines et les prochains mois. On ne va pas rester en grève 6 mois. Il faut que vous réagissiez. On ne va pas se raccrocher à quelque chose qui nous renvoie à des semaines plus loin. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'ils peuvent pas faire autrement parce qu'il y a des lois, il y a des règles qu'il faut respecter, ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire autrement? Voilà, moi j'ai ma petite idée sur la question.
Une dernière question, une question plus personnelle. Est-ce que vous avez pris votre décision quant à votre départ ou à votre souhait d'incarner CNews, c'est-à-dire le prochain visage d'ITélé?
Je ne suis pas certain de pouvoir incarner CNews.
Merci beaucoup, Adrien Borne. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Roselyne Bachelot, signataire de la pétition « Je soutiens ITélé », cette sortie de crise, c'est une victoire pour qui ?
C'est une tragédie d'abord. Et j'y ai participé tout au long des jours en les soutenant, en discutant, en envoyant des sous, parce qu'il n'y a pas que de l'amour, il y a aussi des preuves d'amour.
Oui, il y a eu une caisse de grève.
Voilà, et... Je l'ai vécu comme quelqu'un qui elle-même a été éditorialiste sur ITélé, aux côtés d'Antoine Genton, qui était le porte-parole du mouvement. Donc j'avais non seulement une optique politique sur cette affaire, parce que je la trouve très signifiante. Elle nous parle de ce qui se passe actuellement dans les médias et ce sur quoi il faut tenir bon. Enfin, je suis heureuse d'ailleurs que sur France Inter, beaucoup aient dit arrêtons de nous couvrir la tête de cendre à propos de l'élection de Donald Trump. C'est pas parce qu'il a gagné qu'on a tort. Bien sûr que non, il faut continuer le combat. Et c'est pas parce que aujourd'hui les journalistes de ITélé objectivement, ils ont perdu, quoi qu'on en dise, ils ont perdu sur l'essentiel, sans doute pouvaient-ils pas en être autrement, ils n'ont pas été aidés, c'est pas parce qu'ils ont perdu que leur combat n'était pas juste, et ça il va falloir le redire. Je voudrais bien d'ailleurs qu'un réalisateur fasse un film, parce que ça expliquerait les choses, ça dirait au grand public ce qui s'est passé, ça leur dirait qu'ils sont partie prenante de cette affaire.
Ça leur dirait aussi qu'ils étaient face à un groupe dont les reins financiers sont extrêmement solides et que finalement ce timing dont parle très bien Adrien Borne, il a profité au groupe absolument pas à ces grévistes qui ont
Mais
fait
voyez,
durer
parlant,
le...
Mais voyez, en parlant, les larmes montent aux yeux.
Oui, vous êtes émue.
Oui.
Oui, vous êtes émus. Bon, alors on va parler des RMC.
Voilà.
Allez, on va parler des RMC.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Direction RMC. Donc la concurrence à 15h depuis septembre, l'ancienne ministre. Bah oui, parce que c'est pas la concurrence qui inviterait France Inter sur son antenne. L'ancienne ministre réagit à l'actu et aux questions des auditeurs.
De toute façon, il arrive 100 à 150 migrants à Paris tous les jours. Donc, je te fais une prédiction, je ne risque pas d'être démenti. Reconstitution en quelques jours des campements sauvages. On croyait qu'on était allé au bout de l'horreur avec des images abominables. Et alors là, c'est abominable de abominable. On a appris que finalement, aucune législation n'interdisait l'abattage des vaches gestantes, des vaches pleines, celles qui ont un petit veau dans leur utérus. Être parents d'enfants scolarisés, c'est la galère. On nous dit que les devoirs sont supprimés et on est obligé d'en surveiller à la maison. On court toute la journée pour les activités périscolaires. Bref, c'est le burn-out pour les pauvres parents.
Alors, tradition RMC, très à l'américaine encore une fois, les tranches sont très marketées autour de la personnalité qui les incarne. C'est Radio Brunet, Direct Bourdin, Moscato Show et maintenant c'est 100% Bachelot. Donc vous avez bien quelques invités, quelques experts, mais c'est vous qui êtes au centre, c'est à vous que les auditeurs parlent, Roselyne Bachelot, se confient.
C'est vrai, c'est le contrat qui a été passé entre la station RMC et moi-même. Je ne suis pas une journaliste passeuse de plat qui présente l'information. Oui, on veut du 100% Bachelot, donc je dis...
On veut votre avis.
On veut mon avis, mon opinion, quitte d'ailleurs à me castagner avec les auditeurs, à dire, écoutez, je suis
qui
pas
sont
du
invités
tout
à réagir à la
vous.
Fois sur les sujets que vous leur proposez, mais c'est en même temps une forme de libre antenne. Nous, on a appelé cette émission la Difoule de l'info.
Dites donc, alors bah vous oui. Invitez aussi Skyrock.
On avait le choix entre Lovin Roselyne et la Difoule de l'info.
Vous êtes très écuménique.
Roselyne Bachelot, vous qui avez vu les rapports entre la politique et la télé se transformer ces 15 dernières années, est-ce que c'est pas aujourd'hui ce qu'on attend attend de tous les hommes politiques à longueur de journée sur une chaîne d'info. Être en réaction à l'actu du jour, être pour ou contre, donner son avis sur tout.
Alors moi je suis pas une politique, une femme politique derrière mon micro. Et d'ailleurs, chaque fois que on dit Madame la ministre, je dis non, c'est fini. Et j'ai hâte finalement que l'échéance électorale de 2017 passe, parce que sans arrêt, on me dit oui, mais enfin, tu vas revenir. Non. Là, quand je serai passé par le sas de décontamination 2012-2017, on verra que je ne reviens pas. Je suis une femme qui a un passé, qui a une histoire, qui a sans doute une densité d'expérience sur beaucoup de sujet, parce que quand on a été ministre de l'Environnement, de la Santé, des Sports et des Affaires Sociales, on sait quand
c'est
même un certain nombre de choses.
C'est ça, la solidarité, vous avez été conseiller régional, conseiller général, député, etc. Donc c'est quand même au nom de ce passé-là et de cette densité-là que vous vous exprimez d'une certaine manière.
Vous avez raison,
manière.
C'est au nom de cette densité.
Voilà, mais vous les avez vus, en même temps, toute cette génération de politiques formées sur les chaînes d'infos, qui ont grandi sur les chaînes d'infos, être entraînée à ça justement, donner son avis surtout au jour le jour.
Je crois qu'il faut résister à donner son avis quand on n'a pas de densité, justement, et pratiquer une certaine assaise médiatique, avoir quelque chose à dire. C'est aussi ce que m'a appris Jean-Jacques Bourdin.
Ah oui.
Jean-Jacques Bourdin, vous n'allez pas sur son antenne si vous n'avez pas quelque chose à dire. Mmh. Si c'est pour débiter les éléments de langage concoctés par l'Élysée et par Matignon, ça ne l'intéresse pas. C'est pas mal quand même comme vision.
Alors, évidemment, il y a tout le risque là-dedans, hein, c'est de tomber dans la discussion de comptoir, dans le café du commerce.
Ce qu'on appelle le café du commerce.
Ouais, le café du commerce. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que vous jouez l'empathie à fond. À fond avec vos auditeurs, mais aussi on voit bien que vous avez intégré tous les codes du divertissement. Vous avez fait de la radio avec Hanouna, avec Ruquier sur Europe 1 et sur RTL.
Oui, tout à fait.
Vous tutoyez votre co-animateur, vous le draguez même un peu.
Non. Alors là, Rémi Barret, je drague Rémi Barret.
Oui.
J'espère Rémi que tu m'entends.
On a des extraits. Non, voilà, comment mettre la limite entre le café du commerce et pas le café du
D'abord,
commerce.
D'abord, je crois qu'il ne faut pas être arrogant. Mmh. Au café du commerce, il se dit des choses. Et c'est peut-être pas inintéressant de les entendre. Il y a au moins des choses à tirer des dernières semaines. C'est qu'il y a une forme d'élitisme arrogant qui refuse d'écouter ce que disent les gens et qu'on ferait bien de supprimer cet élitisme, mais d'aller vers ceux qui parlent. Moi, je tenais justement mes permanences électorales, ma permanence de député, je la tenais dans un bistrot. Bistrot du quartier mon plaisir. Je ne la tenais pas dans un lieu éthéré. C'est-à-dire que les gens me voyaient, ils causaient.
Alors, c'est intéressant quand même, parce que là, on voit bien que Nicolas Sarkozy, en campagne, c'est précisément son nouveau credo. C'est de dire, je dénonce la pensée unique. Et la pensée unique, ma chère Roselyne Bachelot, puisque vous n'êtes plus Madame la Ministre, vous êtes tombée dans ceux qui confisquent la vraie vie des gens au nom de Nicolas Sarkozy, aux yeux de Nicolas Sarkozy, pour en faire une forme tout
d'abord,
à fait
dévoyée. D'abord, la pensée unique,
dévoyée.
Ça avec ce terme de pensée unique.
C'est pas moi, c'est Nicolas Sarkozy.
Oui,
mais
justement,
qui
je dénonce parce que la pensée unique, ça n'existe pas. Dans un monde aussi multiple, aussi différent, où chacun est amené à dire la sienne, on a un paysage politique complètement éclaté. Alors, dans notre pays, la pensée unique, s'il y a une chose qui n'existe pas, c'est bien la pensée unique.
Voilà, donc vous partagez pas du tout ce credo.
Je partage absolument pas le
procès
la
des journalistes.
De la pensée unique.
Faite par Nicolas Sarkozy, justement, au nom de cette dénonciation
de la pensée
unique.
Je le dénonce et je l'ai même écrit parce que je suis également éditorialiste dans le groupe Nice Matin. Mm-hmm. Je fais un éditorial chaque semaine d'analyse politique qui fait une demi-page, dans quand même plusieurs heures de travail. Et tout de suite, j'ai terminé mon éditorial de dimanche dernier en disant « Amis journalistes, continuez à vous battre, c'est pas parce qu'il a gagné que vous avez tort
!» Alors, il y a un vrai modèle américain sur lequel Alain Veil, qui a fait le succès qu'on sait d'RMC, pendant toute une époque, a les yeux. Ce sont ces anciens politiques, comme David Axelrod, ancien conseiller d'Obama, comme Dan Bongino avec son Dan Bongino's Show, des anciens politiques qui sont devenus animateurs presque prêcheurs cathodiques au micro.
Oh là là, je suis une prêcheuse cathodique.
Non, c'est vraiment.
Ah bon, d'accord.
Justement, il y a une limite en France, et justement, laquelle est-ce que vous vous imposez? Quand vous donnez votre avis, on sait bien qu'en France, jamais un animateur au micro n'appellera à contrer un candidat ou à voter pour un candidat. Quelle est la limite que vous vous imposez? Ce qui est très courant aux États-Unis. Hein.
La limite que je me suis imposée, c'est d'abord de ne pas participer à cette campagne présidentielle. Mmh. J'ai pris un engagement ferme Je suis une femme de conviction, un certain nombre de gens connaissent mes convictions. Je ne serai jamais plutôt dans la sensibilité de M. Mélenchon. Les gens l'ont à peu près
compris.
Mais par exemple, on me demande quel est mon candidat pour la primaire de droite. Je ne réponds pas. Mm-hmm. Je veux, dans ce domaine, être tout à fait clair. Donc ça, c'est la première limite que je me suis imposée. La deuxième limite que je me suis imposée, c'est d'être loyale et de ne pas être une aboyeuse vis-à-vis des ministres qui m'ont succédé. Par exemple, vis-à-vis de Marisol Touraine, qui m'a succédé au ministère de la Santé, je ne parle d'elle que pour appuyer les choses avec lesquelles je suis d'accord, comme par exemple son combat sur le tabac, mm-hmm. Ou la création d'une salle d'injection surveillée, parce que ce sont des combats que j'ai menés moi-même. Donc je veux, dans un exercice dont je connais la difficulté, ne pas parler des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais des choses avec lesquelles je suis d'accord et sur lesquelles il est important de la soutenir.
Alors, vous avez choisi RMC. RMC, vous passez juste derrière Brunet. Oui. Alors, Éric Brunet, c'est une droite dure, décomplexée, souvent virulente, parfois populiste. C'est pas la vôtre, en même temps.
C'est ça, l'intérêt d'une radio comme RMC, c'est d'avoir des voix extrêmement identifiables et extrêmement différentes. Mm-hmm. C'est de ne pas être monolithique. C'est vrai que de passer après Éric Brunet, il y a un gap entre nous deux. D'abord un homme, ensuite une femme, qui clôture une séquence d'informations très très dense. Hein, enchaîné Bourdin, les grandes gueules, Éric Brunet est terminé par moi. C'est pour ça que la troisième marque que je veux donner, c'est cette marque d'une militante féministe engagée, d'une femme de conviction et d'un certain décalage vis-à-vis des sujets d'actualité, parce que la séquence a été tellement dense sur les trois séquences précédentes. Bon, cet après-midi, on va parler du suicide des agriculteurs. Ouais. C'est pas un sujet people. C'est du concret, c'est du dense. Je n'hésite pas sur ce créneau, sur cette partie, à parler de sujets qui sont pas particulièrement divertissants.
Voilà. Alors, juste après vous, il y a Moscato. Vous êtes entre Brunet et Moscato. Alors là, on n'a pas le temps parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais vous avez des passages d'antenne totalement folkloriques avec Moscato. Vous vous tutoyez à l'antenne. Il dit, oh là là, Roselyne, je me tape le cul par terre tellement tu t'y connais bien en sport. Je rappelle que ça fait partie de vos charges ministérielles. Et c'est très intéressant parce que les deux piliers d'RMC, c'est la politique et le sport. Exactement. Et vous avez allié les deux. Vous avez ouvert un débat à l'Assemblée nationale après le fiasco de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Le débat sur le sport, Roselyne Bachelot, il s'est beaucoup politisé, il s'est beaucoup sociétalisé. On est passé d'une victoire black-blanc-beurre à une forme de chasse aux racailles, hein, dont Riolo, qui est aussi sur RMC, a fait un peu son fer de lance avec son livre Le Racaille Football Club. Comment est-ce que vous vous sentez sur ce créneau-là, justement, du sport et de la politique ?
Alors, moi d'abord, je suis une consommatrice de sport.
Mais oui.
Et comme tout un chacun, je vais aller à mon match Angers-PSG, PSG-Angers.
Mais allez, hop.
Dans quelques jours, j'aime les sportifs. Et ce qui me fait plaisir, c'est que finalement, les sportifs ont gardé un très bon souvenir de moi comme ministre des Sports. Peut-être parce que je n'étais pas sportive moi-même et ils pensaient que je privilégiais pas le judo ou l'athlétisme au motif que j'avais été une ancienne judoka ou une ancienne athlète. Donc, moi, je suis d'abord une spectatrice du sport.
Allez,
à cette période de ma vie.
Du sport que vous retrouvez tout à l'heure sur RMC et demain matin à 8h50 sur France Musique. De l'opéra. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers. Ce matin dans Quand bien vous fasse, on s'intéresse aux petites manipulations non perverses, non toxiques du quotidien, entre amis, en famille, entre collègues ou au supermarché. 01 45 24 7000.